Est-ce qu'il y a des questions de la salle par rapport à
choses
astronomiques ou poétiques ou...
Oui, du coup, je vais vous poser une question un peu technique. Du coup, si on arrive à voir ces planètes qui ont une atmosphère, on va voir l'atmosphère telle qu'elle était il y a combien de temps? Parce que du coup, nécessairement, c'est il y a très très longtemps, puisque c'est très loin.
Je vous rassure, les planètes, pour le moment, on est capable de les détecter jusqu'à un rayon, l'ordre de grandeur, c'est 50 à 100 années-lumière. Hein, une planète, elle vit beaucoup plus longtemps que 100 ans ou 50 ans. Donc, le rayon qu'on a pour le moment observé est très petit. Hein, je veux dire, la galaxie, la Voie lactée, elle fait 100 000 années-lumière de diamètre. Et on a observé peut-être une petite sphère qui correspondrait à ça. Donc, ce qu'on voit, c'est encore d'actualité, on va dire.
Bon, pas de questions pour le moment. Bon, je peut-être justement cet aspect spatio-temporel, ça me fait rebondir sur quelque chose qu'on partage avec l'astronomie. En tout cas en théâtre ou en littérature en général. C'est vrai que cette idée-là que les étoiles déjà mortes nous envoient encore leur lumière, justement, on a commencé sur Shakespeare, c'est une étoile du théâtre morte, mais qui continue à nous envoyer sa lumière. Donc est-ce que c'est peut-être là aussi encore une fois un point parallèle entre l'écriture dramatique et l'astrophysique? L'univers.
Je crois qu'Étienne répondrait très bien à ça.
Ben, j'étais en train de te lire. Hein. Non, j'ai pas.
La question c'était est-ce que des écritures des temps anciens peuvent encore luire, peuvent encore envoyer leur lumière comme les étoiles mortes dont on aperçoit encore la lumière aujourd'hui. Donc, voilà, tu as cité René Char, on a commencé avec Shakespeare. Voilà, est-ce que les poètes d'autrefois nous envoient encore leur lumière?
Absolument, on fait civilisation avec ça. Toute notre civilisation est donc la persistance des différentes traces qui nous permettent d'avancer. Le répertoire, la littérature, toute notre histoire. Et cela, c'est une évidence. Maintenant, évidemment, il y a des météores fulgurants qui nous éblouissent encore aujourd'hui, comme Shakespeare, ou comme, en tout cas pour nous, sur le continent, des auteurs comme Amadou Ampateba, du Mali, ou Soli Laboutansi, du Congo, des gens qui ont pu, d'une certaine façon, rassembler en eux toute l'expérience humaine d'une totalité d'une puissance. Et nous le transmettre comme ça, et qu'on revisite. C'est pareil chez vous avec les grands poètes français. Et c'est avec ça qu'on fait civilisation. C'est avec ça qu'on avance. Et c'est avec ça aussi qu'on transmet à nos enfants. C'est avec l'ensemble de ce tissu de choses qui font l'étoffe de nos rêves. C'est avec ça qu'on coud l'humanité et qu'on transmet l'humanité. C'est pour ça que dès qu'on veut éteindre les espaces de fabrication de ça, dès qu'on veut éteindre un théâtre, dès qu'une maison d'édition ne peut pas s'en sortir, dès qu'un théâtre a moins de subventions, dès qu'une compagnie, etc., il ne faut pas se dire qu'on est en train de faire de la restriction budgétaire, on est en train d'appauvrir notre possibilité de transmission de notre civilisation et de nos rêves. Et que le combat, alors, en ce moment, devient politique. Et que la discussion, ce n'est pas aller de protester qu'on coupe ceci, c'est de dire vous nous enlevez la possibilité de devenir. Et ça, c'est plus grave, puisque la responsabilité quand même politique, c'est d'agencer et d'organiser notre devenir collectif. Donc, il faut leur renvoyer la question à cette dimension-là. Et alors, en ce moment, oui.
Bonjour, c'est une question pour nos trois invités. Existait une exoplanète sur laquelle il y a une civilisation qui peut-être Quel serait, d'après vous, ce théâtre?
Comme je disais tout à l'heure, c'est une question à laquelle il est quasiment impossible de répondre. Parce que, non, je ne me défile pas. Parce qu'on a le modèle qu'on a ici et on n'arrive pas à imaginer autre chose que ce qu'on connaît. Ce que je vous disais pour les exoplanètes, on était à 100 000 années-lumière de penser qu'il pouvait y avoir des planètes qui tournent aussi rapidement autour de leurs étoiles. On était à 100 000 années-lumière de penser que ce qu'on a trouvé au mois de février, il y a 2 ans, une petite étoile rouge avec 7 planètes Terre, donc aussi petite que la Terre, rocheuse, qui tournait autour de la même étoile. Donc, poser la question s'il y avait des étoiles. On ne sait même pas comment. On dit on va trouver de la vie ailleurs, on cherche la vie ailleurs. Mais on ne sait pas comment elle a été, on ne sait même pas comment elle s'est formée, la vie. Le seul modèle qu'on a, c'est celui qui est là, mais il est peut-être complètement différent. Donc, le théâtre que des êtres dont on n'arrive même pas à imaginer comment ils sont faits, ils font du théâtre. Vous voyez, c'est franchement difficile.
Peut-être que tu as une autre réponse.
Justement, dans le projet des grandes oranges, pas pouvoir vous donner grande réponse. Non, j'allais répondre un peu dans la continuité de ça. Moi, j'aimerais, si c'était possible, s'il y avait une autre forme de vie qui existait, j'adorerais que ce soit quelque chose que je ne peux pas imaginer, en fait. Parce que du coup, pour me défaire de mes a priori, de ce que je crois savoir, pour que ça puisse m'ébranler, j'ai l'impression qu'il faut forcément que ça soit une chose tout à fait neuve. Si ça se trouve, on ne peut même pas la toucher, on ne peut même pas la voir, cette forme. Si ça se trouve, il n'y a pas de forme. J'en sais rien.
Donc, ouais, j'espère, parce que sinon, pour au moins la détecter.
Je répondrai à ça. J'adorerais me dire que cette chose-là, je serais surprise de la découvrir.
C'est des questions qui nous amènent tellement loin, on a envie de dormir avec ça, parce que ça nous fait rêver. J'en sais rien, juste peut-être souhaiter ce que ça pourrait être pour ce qui n'est pas encore. Puisque ce que je fais n'est pas encore ce dont je rêve, je souhaiterais que s'il y avait un autre monde possible, que ça puisse être un aboutissement. Et pour moi, c'est ce qu'on dit qu'on fait du théâtre. Le désir, quand même, c'est de changer le monde, de transformer le monde. C'est-à-dire de changer les choses qui ne vont pas. Et une chose dont je suis tellement préoccupé, c'est l'humiliation des gens. C'est-à-dire l'incapacité qui est donnée au plus grand nombre de ne pas vivre dignement sa vie d'homme. Et toute notre histoire est traversée par ça, l'iniquité. Et que le théâtre cherche à traduire, à chercher la possibilité d'un monde sans iniquité, donc sans humiliation, sans meurtre, sans ceci, etc. Et que le théâtre qui pourrait se faire dans cet espace-là pourrait être un théâtre où ceci n'est pas possible, ce n'est pas un sujet. Que le sujet... Ce serait donc comment augmenter notre capacité divine, notre capacité du titan. Et c'est pour ça que j'aime la mythologie grecque, dans sa part plus belle que dans sa part tragique, où les dieux s'entretuent, les jalousies, etc., etc. Mais cette idée du côté titanesque de l'homme. Voilà.
Juste, il y a quand même une chose intéressante à propos de la vie ailleurs, c'est que on parle beaucoup de la matière organique, etc., qu'il y en a qui disent oui, mais ça ne serait peut-être pas la même forme de vie. on imagine mal, mais très mal, une vie qui ne serait pas basée sur la chimie du carbone. Pourquoi ? Parce que la chimie du carbone est la chimie qui demande le moins d'énergie pour fabriquer des molécules, pour fabriquer des êtres vivants. Et la nature déteste dépenser trop d'énergie. Donc en effet, elle va toujours au moins ce qui dépense le moins d'énergie. Un peu comme nous, hein, je dirais. Je veux dire, moi j'ai passé mes examens en essayant de dépenser le moins d'énergie possible. Donc voilà, donc là, on a quand même une petite idée de ce à quoi pourrait ressembler éventuellement la vie ailleurs. Alors maintenant, demandez des bactéries de jouer Shakespeare. Je ne sais pas. Et pour en revenir aux artistes et au ciel, il n'y a pas que le ciel a quand même influencé beaucoup de monde, pas que les auteurs, la musique par exemple, pensez-y, serait au Clair de Lune, c'est vraiment l'exemple basique, hein, ou la symphonie Jupiter, ce genre de choses. Il y en a même un qui s'appelle Kepler, qui a imaginé des séquences de sons liées aux orbites des planètes autour du Soleil. Et ça a donné de la musique basée sur la fréquence entre le rapport des périodes de révolution des planètes autour du Soleil. Vous voyez qu'on peut le voir. Une source d'émerveillement, d'inspiration pour les auteurs, pour les musiciens, pour tous les artistes.
C'est justement pour rebondir sur ce que vous disiez et aborder la notion de mystère, en fait, qu'on aborde dans nos métiers. Et puis j'imagine que vous êtes en permanence en présence de mystère. Rien que la matière noire, enfin, dans l'univers, il y a plein de choses qui ne sont pas expliquées et on est face à un grand mystère. Et nous, dans nos métiers, puis dans la poésie, on fait des ponts improbables pour essayer d'approcher comment s'approprier ça, comment on peut décrire et comment partager cette présence du mystère. On fait des ponts improbables parce que les poètes, avec des champs lexicaux complètement différents, on essaye d'approcher ça par la poésie. Et c'est vrai qu'avant, les astrophysiciens, ils étaient à la fois médecins, astrophysiciens, multi-protéiformes. Et aujourd'hui, on a affaire à des spécialistes. Donc ma question, c'est, vous, dans votre métier, est-ce que vous faites des ponts avec les poètes pour essayer de même dans votre méthodologie de travail, parce que le vocabulaire du mystère ne peut pas être... il y a quelque chose qui peut-être, je ne sais rien, qui dépasse peut-être un peu le champ du scientifique, et que le scientifique a peut-être besoin de poésie, et qu'il y a des ponts possibles, je ne sais pas. Dans votre métier, est-ce que vous confrontez à ça?
Disons que les ponts possibles, on les cherche, c'est sûr. Mais d'abord, avec le grand public, parce que la poésie, c'est encore loin de nos capacités. Hein, je veux dire, moi, je me vois mal écrire des poèmes, des trucs comme ça. Donc c'est d'abord essayer de rendre notre jargon compréhensible par le grand public. Ça oui, d'ailleurs ça fait partie de mon job, hein. C'est 70%, 70% j'y arrive, ouais, de mon travail, c'est de communiquer au public ce qu'on est en train de faire. Ce que je suis en train de faire en ce moment avec vous, c'est exactement ce pourquoi je suis payé. Et donc ça c'est une partie. Donc c'est ce pont qu'on essaye d'établir avec la cité, ce que faisaient beaucoup plus difficilement les scientifiques il y a 30 ans, 50 ans, etc. Alors pour deux raisons, il y en a une qui est toute simple, c'est parce qu'on aime ce qu'on fait et on aimerait bien que les gens comprennent ce qu'on fait, histoire de ne pas rester tout seul dans notre tour d'ivoire. Et puis la deuxième raison, qui est peut-être un petit peu plus pragmatique, c'est que plus on en parle, plus on a d'argent. Il faut voir les choses comme elles sont. Je veux dire, À Genève, on a découvert la première planète extrasolaire. On n'a jamais eu autant d'argent à l'Université de Genève à faire d'astronomie que depuis qu'on en parle dans les journaux, on en parle à la télé. Donc les politiciens qui donnent l'argent, ils disent « Ah, mais ouais, c'est vrai, ceux-là, on les connaît, c'est bien ce qu'ils font. » Alors qu'on a des collègues astronomes qui font des choses tout aussi compliquées, voire plus, et puis qui rament pour avoir des budgets, pour avoir des... Donc, voilà, c'est pour ça que je parle spécialement des exoplanètes, parce que je fais partie du pôle de recherche national sur les exoplanètes, mais on cherche, comme vous le dites, à établir des ponts avec la cité, ça, oui, et c'est, je pense, très important. Alors maintenant, de là, à me faire écrire un poème ou une sonate pour piano, il ne faut pas exagérer non plus.
Bon, ça donne des idées en tout cas pour
une réparation, Pierre. Mais du coup, alors, parce que je ne sais pas si du coup j'ai compris en ce moment votre question, je reformule peut-être une chose que je n'ai pas comprise. Mais du coup, est-ce que par exemple, des sonates ou des poèmes que vous pouvez lire peuvent vous influencer dans la recherche? Est-ce qu'à l'inverse, vous pouvez tirer des choses du domaine artistique ou même pas artistique, mais qui viennent accompagner un travail de recherche scientifique?
C'est difficile. Non, je veux dire, ça devient tellement pointu. Je veux dire, un exemple, il y a 20 ans, il y avait 7 astronomes qui travaillaient sur les exoplanètes. Il y avait un groupe à Genève et un groupe aux États-Unis. Maintenant, il y en a 3200. Donc, il y en a qui s'occupent uniquement de détecter du fer dans l'atmosphère des Jupiters chauds, par exemple. Ou bien le Mercure dans les Neptunes froids. Donc, ça laisse peu de place à l'influence. C'est, voilà, et puis on est tout le temps devant des ordinateurs, aux mails, etc. Je veux dire, c'est plus facile dans l'autre sens.
Mais ça vous met quand même des fois dans un état de ravissement.
Ah oui.
De trouver... Mais pour moi, l'état poétique, c'est ça. C'est tout d'un coup, dans mes préoccupations scientifiques, tout d'un coup, je me trouve devant un état de ravissement. Et ça augmente ma capacité de voir le monde. Pour moi, cette dimension poétique, je suppose qu'elle est...
Oui, oui. C'est moi, l'énergie. Comme je disais tout à l'heure, moi, je l'ai quand je suis au Chili. Là, tout d'un coup, là, c'est l'émerveillement. C'est plus l'émerveillement devant l'univers, la nature, notre planète. Et ça peut me rappeler des textes que j'ai lus ou des musiques. Un truc qui est marrant, c'est que quand on va observer, moi je suis tout seul dans le télescope. On est tout seul, ça. Puis enfin, je peux mettre la musique que je veux, parce que moi je suis marié, j'ai des enfants. Je peux mettre la musique que je veux, et à fond la caisse, toute la nuit.
Enfin libre.
Exactement. Et là, j'écoute la musique comme j'ai envie de l'écouter, c'est absolument génial. Ce que j'écoute, moi j'écoute, je suis très éclectique, ouais. Mais en ce moment, j'adore écouter News.